Rebelle Hebdo, le magazine des luttes sociales et des alternatives politiques et économiques dans le bassin minier et au-delà.
Micro Rebelle Hebdo, c'est chaque semaine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Vous pouvez nous envoyer vos actualités toujours par courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Retrouvez toutes nos émissions sur le site de notre web radio micro-rebelle.fr.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de Micro Rebelle Hebdo, à la fois sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Je commence par vous rappeler nos horaires de diffusion. C'est le mardi après-midi à 15h, le samedi matin à 7h30 et le dimanche à 14h. Micro Rebelle Hebdo, c'est un magazine qui explore l'actualité sociale et politique. Un magazine qui s'inscrit dans les luttes pour la mise en œuvre d'une nouvelle société, un magazine à l'écoute des mouvements sociaux dans le bassin minier et au-delà. Chaque semaine, nous vous proposons notre agenda social et culturel, des reportages d'actualité et de la musique libre. Sans attendre, voici notre agenda social et culturel pour les jours à venir. Au cinéma Les Étoiles à Bruay, du 4 au 6 février, on peut voir le dernier film documentaire de Raymond Depardon qui s'intitule 12 jours. 12 jours aborde la question de l'hospitalisation sans leur consentement de personnes qui, dans ce cadre-là, doivent être présentées en audience avant le 12e jour de leur hospitalisation. Alors, d'un côté un juge, de l'autre un patient. Au cours du film, on voit qu'entre ces personnes naît un dialogue sur le sens du mot « liberté » et de la vie. C'est donc le documentaire « 12 jours » de Raymond Depardon au cinéma Les Étoiles à Bruay, le dimanche 4 à 18h30, le lundi 5 à 20h30 et le mardi 6 à 14h30. Le vendredi 9 février à 20h30, à l'espace culturel Ronny Kouter à Grenay, c'est un monologue historique et patrimonial que nous sommes invités, intitulé « César d'Anglos revient des enfers ». C'est le 10 mars 1906, la journée commençait bien, tout à coup une forte détonation. Ce spectacle est écrit à partir du témoignage d'un des 13 réchappés de la catastrophe minière de Courrières. Le texte, fidèle au récit de César d'Anglos, est puissant, dense et interprété avec brio. Nous pénétrons dans un univers hors temps qui nous transporte dans la réalité de la mine, qui nous fait vivre la mine et l'histoire de manière saisissante. Une atmosphère sombre renforcée par une création musicale subtile. Alliée à la qualité de l'interprétation, d'une sincérité et d'une vérité déconcertante, le tout est d'une justesse à faire froid dans le dos. Le théâtre prend ici toute sa dimension et sa force. Faire vibrer, faire ressentir. Passerelle entre hier et la perversité de notre société contemporaine, César d'Anglos revient des enfers, dénonce l'esclavage des temps modernes. C'est un spectacle fort drôle et profondément bouleversant. C'est donc César d'Anglos revient des enfers à l'espace culturel Ronny Kouter de Grenay le vendredi 9 février à 20h30. Le vendredi 9 février, toujours, c'est d'un voyage en bus dont je vais vous parler, un voyage vers Notre-Dame-des-Landes, où la mobilisation Enracinons l'avenir vous donne rendez-vous le samedi 10 février. Il y a donc un départ de Fresnes-lès-Montauban à 20h la veille, le vendredi 9 février, pour rejoindre la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, pour fêter la victoire au cœur de la ZAD, soutenir les camarades là-bas, dire non aux expulsions, pour que ce bocage reste cet espace unique d'expérimentation sociale, environnementale, agricole, architecturale, poétique, botanique, expressif, non productif et non taxé, etc., etc. Si vous êtes intéressé, il est urgent de s'inscrire pour réserver des places dans le bus. Hein, le nombre de places est limité. Vous pouvez vous inscrire en envoyant un mail à cette adresse, lillezad10fev, tout collé, lillezad10fev, 10 en chiffres arabes, fev pour février, @riseup. Net. Je vous redonne l'adresse lillezad10fev@riseup.net. Le samedi 10 février, à Liévin, au LAG, le lieu autogéré de Liévin, c'est un débat pensé ensemble organisé par la coopérative CLIS 21 sur la thématique de l'éducation populaire en question, avec la participation de Adeline de Lépiné, auteure du site education-populaire.org. Le débat abordera la question de savoir jusqu'où faire avec la contradiction entre adaptation au système et transformation sociale, entre récupération par le système et émancipation. Quelle perception a-t-on de l'éducation populaire ? C'est de 10h à 12h30 au LAG, 23 avenue Jean Jaurès à Liévin, le samedi 10 février. Débat Penser Ensemble, organisé par CLIS 21. Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9. Radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Micro Rebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir Los Dias et leur album Energeia. Los Dias, ce sont quatre garçons de Buenos Aires qui nous entraînent dans un pop tonique sur fond de cordes vibrantes et affirmées. Le morceau qui suit s'intitule Televisar. Nous diffusons maintenant un reportage lié à l'actualité sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Aujourd'hui, nous revenons sur la mobilisation contre les compteurs Linky dans le bassin minier et notamment à Lens. Il y a eu cette semaine une soirée d'information, la salle était pleine et cette rencontre a permis de comprendre les enjeux autour du déploiement des compteurs communicants Linky. Micro Rebelle, qui était également présent, est allé à la rencontre de quelques-unes des personnes qui ont assisté à cette soirée.
On a compris qu'il ne fallait pas l'installer, que ce n'était pas une obligation, voilà. Et j'espère que la Sogenorpa ne nous obligera pas à l'installer. Si ? Je ne crois pas, hein, je ne pense pas non plus. Bon, ben j'espère alors. Bon, ben c'est très bien.
Oui, le compteur, je suis contre de le monter. Parce que... pour moi, c'est pas intéressant.
Bon, d'abord, j'ai trouvé très intéressant parce que franchement, j'avais une vision un peu compliquée et j'ai vraiment bien compris clairement. J'ai beaucoup apprécié que vous ayez tout de suite commencé en disant « dans l'éducation populaire ». Ça, pour moi, c'est important. Et non seulement vous l'avez dit, mais vous avez vraiment présenté en rapport avec l'éducation populaire, vraiment pédagogique, respectant les personnes, tout en se mettant au niveau des personnes, franchement, c'est très bien.
Non, c'est sympa, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ce que j'ai retenu de la réunion, qu'on nous impose un compteur électrique, qu'on nous donne pas le choix, et je suis contre ce projet-là. Il peut y avoir des problèmes techniques, on n'est pas au courant de quoi que ce soit. Voilà, c'est mon point de vue. Je vais mettre la fiche sur mon compteur, quoi. Et envoyer un recommandé à la société Linky.
C'était vraiment intéressant parce que, bon, on se posait certaines questions et on a eu quand même les réponses qu'on voulait, quoi. En sachant que déjà, on avait quand même des a priori sur le compteur Linky, quoi. Voilà. Et donc, moi, je trouve que là, j'ai eu les réponses qu'il me fallait et j'en veux pas.
Ben moi, c'est un peu pareil. Disons que quand on est tout seul, on doute sur certaines choses. Et là, en groupe, on se sent... Enfin, moi, je me sens rassurée. Et je dirais que, même mon mari, hein, disons que, on est beaucoup plus prêts, à dire non et à faire les choses qu'il faut, quoi. Voilà.
Eh bien, je vous propose maintenant une pause musicale sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Comme toujours sur Microrebelle, il s'agit de musique libre. Aujourd'hui, je vous invite à découvrir le groupe Blue Dot Sessions au travers de l'album Landsman Duets. C'est un album contenant 9 titres instrumentaux, interprété par un duo de guitare classique acoustique. La musicalité est chaleureuse, profonde. Les compositions s'inscrivent dans une pureté très classique avec un brin d'improvisation que nous apporte la guitare solo. Nous écoutons le deuxième morceau de cet album, Sunset at Sandy Isles.
Thank you.
C'est maintenant l'heure de notre reportage sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Tous les reportages de Microrebelle peuvent être podcastés et téléchargés dans leur intégralité sur notre site micro-rebelle.fr, micro et rebelle au pluriel. Nous en diffusons aujourd'hui un extrait dans ce Microrebelle hebdo sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Si cet extrait vous a intéressé, n'hésitez pas à écouter l'intégralité du reportage sur le site de notre web radio. Pour cet extrait, nous vous proposons de revenir sur Pierre Dardot, interviewé par des membres de Microrebelle et de PFM dans le studio de Microrebelle à Liévin. Pierre Dardot nous présente son dernier livre, L'ombre d'octobre. Il revient largement sur l'histoire du mouvement ouvrier au XXe siècle suite à la révolution d'octobre 1917 en Russie. Et il aborde ce que peut signifier « faire révolution » aujourd'hui, 100 ans après, notamment sous l'angle de la construction des communs.
2017 fut l'année du centenaire de la révolution russe. À cette occasion, Pierre Dardot, vous avez écrit avec Christian Laval un livre intitulé « L'ombre d'octobre, la révolution russe et le spectre des soviets ». Cette période de l'histoire et ses effets politiques nous paraissent clos depuis la fin du XXe siècle. En quoi aujourd'hui cela a-t-il une importance de se pencher sur cet événement de 1917 pour la société actuelle et pour ceux qui veulent la changer ?
Alors c'est une question qui était exactement la question que nous nous sommes posée en rédigeant le livre. C'est-à-dire nous nous sommes demandé pourquoi. Et dans le quatrième de couverture, on indique que c'est précisément à cette question-là qu'on entend répondre. Certainement pas par intérêt purement historique. Certainement pas pour retracer ce qui s'est passé plus fidèlement que d'autres. Il y a des ouvrages d'historiens qui sont très précieux, très bien, et qui ont fait le travail bien avant nous, donc on s'en est inspiré, on s'est appuyé dessus. Mais notre propos n'est pas du tout historique, c'est un propos qui est politique. C'est-à-dire que nous partons en fait du présent, dans lequel nous sommes, et la question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que ça peut nous apprendre concernant le présent dans lequel nous sommes, auquel nous appartenons, et dans lequel nous avons à agir et à penser. Et c'est une question donc qui est assez sensiblement proche de celle que Foucault posait à partir d'une lecture d'un petit texte de Kant qui s'appelle « Qu'est-ce que les Lumières ?». La question qu'il posait, c'était justement « Qu'est-ce que c'est que notre présent ? Qu'est-ce qui fait que notre présent est singulier ?». Et nous, nous nous sommes posé cette question-là à propos d'octobre 17. Parce que nous savons, par expérience, parce que nous avons appartenu à une génération qui s'est posé la question dans ces termes-là, que des gens au XXe siècle ont pensé les révolutions ou la révolution avec un grand R, un R majuscule, à partir du supposé modèle d'octobre 1917. Et c'est précisément pour nous libérer complètement de ce soi-disant modèle que nous pensons qu'il est nécessaire de revenir de façon critique sur cette expérience pour comprendre la différence, voire même, c'est plus que la différence, c'est la contradiction qui existe entre ce supposé modèle et puis d'autre part, l'expérience qui est faite aujourd'hui des communs dans de multiples domaines, que ce soit les communs informationnels ou les communs de connaissances, que ce soit les communs agricoles, les coopératives, bon, tout ce qui peut se faire aujourd'hui en matière de communs, les communs politiques, municipaux, dans différentes villes en Europe et dans le monde, tout cela n'a rien à voir avec ce modèle du bolchevisme et du léninisme qui est celui d'octobre 1917. Précisément pour une raison, c'est qu'aujourd'hui, ce qui m'apparaît comme étant un des traits remarquables des expériences de commun qui se déroulent dans le monde, c'est l'exigence d'une démocratie égalitaire, profonde et radicale, qui est complètement incompatible avec le modèle du bolchevisme.
D'accord. Alors dans votre livre, vous utilisez, dans l'introduction, la métaphore de l'ombre et de la lumière. Et dans la révolution russe, vous semblez opposer ainsi donc, la vraie révolution, celle des soviets, à la prise du pouvoir en octobre par les bolcheviks. C'est bien
oui,
ça.
Oui, c'est une opposition qui est assez importante parce qu'il est convenu de parler de révolution d'octobre. Et souvent, même les gens qui sont très critiques à l'égard du bolchevisme et du léninisme reprennent à leur compte, sans s'en rendre compte, l'expression de révolution d'octobre en mettant un O majuscule à octobre, sans s'apercevoir que c'est déjà une concession. Et pour nous, c'est une concession terminologique qui est de trop. Ce qui fait que nous indiquons dans le livre, de manière très très formelle, que si nous reprenons cette expression, ça n'est pas pour la faire nôtre, du point de vue du sens, c'est parce que c'est devenu une convention qui est assez partagée. Mais en réalité, on devrait distinguer entre février et octobre, en effet. Et février et octobre, ça n'est pas du tout la même chose. Parce que février, il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une irruption spontanée. Vous avez des institutions d'autogouvernement qui sont les soviets, qui sont donc littéralement, si on traduit le mot russe, des conseils. Vous avez des conseils, donc des soviets, de députés, ouvriers, soldats et paysans qui couvrent toute la Russie. Et vous avez une aspiration égalitaire extraordinaire qui fait que février, c'est un moment où la société russe réinvente son imaginaire. Vous avez un imaginaire social, un imaginaire collectif extraordinaire qui, pour la première fois, fait complètement irruption comme ça dans l'histoire qui est pluriséculaire, qui est celle de l'Empire russe et du tsarisme. Et vous avez quelque chose qui est de l'ordre d'un espoir extraordinaire. C'est précisément cet espoir qui va non seulement se trouver déçu, mais étouffé par ce qui va se passer ensuite. Parce que octobre, c'est une séquence qui est tout à fait différente. Souvent, les gens présentent octobre, les gens, pas tous les gens, mais de manière intéressée, ils présentent octobre comme étant la continuation logique, naturelle de février, et même souvent, les partisans des bolcheviks notamment, présentent octobre 1917 comme étant la vérité de février. Finalement, février 1917 aurait accouché de sa vérité avec la prise du pouvoir par les bolcheviks en octobre. Mais nous, nous pensons, nous ne sommes pas les seuls, il y a beaucoup de gens qui ont dit cela avant nous, nous pensons que justement octobre, ça n'est pas du tout la vérité de février, c'est au contraire la négation de l'aspiration égalitaire qui s'est fait jour de manière publique, de manière extrêmement, vraiment profonde dans toute la société russe, et que par conséquent, il s'agit là non pas d'une continuation naturelle, non pas de la vérité de février, mais de la négation de février. Une aspiration démocratique qui se trouve confisquée, et puis ensuite vider complètement de son contenu, parce que les soviets, les conseils, sont liquidés en l'espace de quelque chose comme 4 ans par les bolcheviks qui ont pris le pouvoir précisément le 25 octobre. Mais c'est une prise de pouvoir par un parti. C'est tout à fait totalement différent.
Alors pour prolonger justement cette question, une certaine tradition considère que la révolution russe s'est développée en deux temps, février 17 comme révolution bourgeoise et octobre 17 comme la vraie révolution sociale. Vous considérez, vous l'avez dit, que ce schéma est faux, et pour vous l'élément révolutionnaire clé c'est l'apparition des soviets. Alors est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots justement sur ce que sont ces soviets ?
Oui, parce que dans l'histoire russe, c'est un mot qui a une signification très précise. C'est la signification de conseil. Soviet, ça veut dire conseil. Donc quand on dit soviet, ça veut dire conseil d'ouvriers, de soldats, de paysans. Et ce sont ces institutions qui émergent d'une manière assez soudaine, il faut le dire, en 1905. Donc la première véritable révolution contre l'autorité tsariste, l'autocratie tsariste. 1905, vous avez un soviet très important à Petrograd, mais dans toutes les grandes villes du pays, vous avez des soviets, et même dans des villes qui ne sont pas très grandes, vous avez aussi des soviets. Et les gens se sont habitués, à partir de cette expérience-là, à vivre ça comme étant une possibilité de prendre leurs propres affaires en main. C'est-à-dire que les soviets, en fait, la véritable valeur irremplaçable des soviets, c'est que ce sont des institutions d'autogouvernement. L'autogouvernement, l'idée que c'est aux citoyens, aux ouvriers, aux paysans, aux soldats, de prendre en main leurs propres affaires et de gouverner la société sans remettre ce pouvoir entre les mains d'une petite minorité, même si c'est un gouvernement qui se prétend progressiste. Bon. Et là, c'est quelque chose de fondamental. Or, si on considère ce qui s'est passé ensuite, justement, octobre, c'est le début d'un processus de liquidation des soviets. C'est-à-dire que les soviets sont repris en main par les autorités qui sont nommées par le parti bolchevique, et ces soviets, petit à petit, sont vidés complètement de leur contenu. C'est-à-dire que on va faire en sorte que des fonctionnaires du parti prennent directement en charge la direction des soviets, les anémies, c'est-à-dire les vident complètement de leur vie politique interne. Ça va prendre du temps, ça ne se fait pas en une seule journée, mais c'est quand même un processus qui commence directement à la suite de la prise du pouvoir par les bolcheviks. Les bolcheviks ont pris le pouvoir au nom des soviets, mais en fait contre les soviets.
Alors justement, c'est un point qui serait intéressant de développer. Si octobre 17 n'est pas une révolution, c'est un coup d'État. Et donc, selon vous, Pierre, c'est un coup d'État contre les soviets ?
Oui, alors la formule de coup d'État est une formule qui doit être pesée. C'est pas une formule qu'il faut prendre à la légère. Certains ont un peu tendance à la manier comme ça, comme s'il s'agissait d'une sorte d'insulte. Non, il faut vraiment considérer ce que ça signifie. un coup d'État. Nous, on est habitué à considérer que les coups d'État, ce sont des coups d'État opérés par l'armée, qui détrônent des civils, qui occupaient des responsabilités à la tête de l'État antérieurement, etc. Parce qu'on a une longue habitude, malheureusement, de ces coups d'État-là. Mais là, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'un coup d'État au sens où vous avez un organe qui s'appelle le Comité militaire révolutionnaire, qui dépend directement du Soviet de Petrograd, qui est un organisme de défense. Normalement, c'est un organisme qui a été mis en place pour défendre les Soviets, pour permettre que les Soviets puissent justement tenir leur congrès. Et c'est un organisme qui est instrumentalisé par le parti bolchevique pour préparer l'insurrection. Mais l'insurrection, c'est l'insurrection armée, conduite, préparée techniquement, conduite et réalisée de bout en bout par le seul parti bolchevique. Donc, et le coup d'État, ça fait référence à quelque chose de très particulier. Le 25 octobre au matin, Lénine, qui est à l'Institut Smolny, est amené à prendre un bout de papier et il rédige une proclamation. Et dans cette proclamation, il dit « Le gouvernement provisoire est renversé, tout le pouvoir appartient au comité militaire révolutionnaire. » Il n'est absolument pas mandaté pour ce faire. Il usurpe, c'est un acte d'usurpation. Il fait comme si c'était un acte qui émanait du comité militaire révolutionnaire, qui ne s'est absolument pas réuni. Nous sommes le 25 octobre à 10h du matin. Il faudra attendre 22h40 pour que le deuxième congrès des soviets se tienne. Il faudra attendre encore 8h pour qu'un ultimatum soit officiellement lancé au gouvernement provisoire. Et là, d'un trait de plume, tranquillement, le dirigeant du parti bolchevique s'octroie le titre qui justifie à ses yeux le fait de déclarer que le gouvernement est renversé et que le comité militaire révolutionnaire a pris le pouvoir. C'est vraiment ce que nous appelons la prise du pouvoir contre les soviets, au nom des soviets, parce que formellement il dit « nous prenons le pouvoir au nom des soviets ». Mais le congrès des soviets ne s'est même pas encore tenu, et normalement c'est à lui que devrait appartenir le titre permettant de dire « voilà, le gouvernement est déposé, nous nommons un gouvernement à la place de ce gouvernement-là, et ce gouvernement est une émanation du congrès ». Donc de la majorité, donc ça veut dire qu'il y a différentes composantes, donc ça veut dire que ce n'est pas un gouvernement exclusivement bolchevique, ça veut dire qu'il y a des mencheviks, ça veut dire qu'il y a des socialistes révolutionnaires, ça veut dire qu'il y a d'autres gens. Mais de cela, manifestement, Lénine ne voulait pas.
Alors pour vous, du coup, cette prise du pouvoir en octobre 17 par les bolcheviks, elle a des conséquences. Hein. Ce serait donc le parti souverain, le monopole, le fétichisme du parti et la construction d'un État terroriste en guerre contre la société. Du coup, rien de positif dans cette expérience ?
Alors, dans cette expérience, si on considère l'expérience au plan politique, non, il n'y a absolument rien. Il faut dire en effet que c'est la mainmise progressive, encore une fois, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais c'est la mainmise progressive d'un appareil d'État sur la société, qui est amené à comprimer comme ça la société russe dans un corset de fer qui va devenir de plus en plus difficile à desserrer. Et ça signifie que vous avez par conséquent une interdiction du pluralisme politique. Les partis mencheviks, socialistes révolutionnaires sont interdits. En 1920 et 21, ce sera les tendances à l'intérieur du parti bolchevique qui seront interdites. Kolentai, dirigeante de l'opposition ouvrière, en fera les frais, puisque précisément la tendance qu'elle représente sera dissoute, officiellement dissoute par ce congrès. Et vous allez avoir quelque chose qui va quand même faire date, qui est l'écrasement de la rébellion des marins de Kronstadt en 1921. Ce sont des gens qui, il ne faut jamais l'oublier, réclamaient tout le pouvoir aux soviets et non au parti. Il faut quand même attirer l'attention de tout le monde sur la signification de ce mot d'ordre, ce qui veut dire que ce n'était pas du tout, comme le prétendaient les dirigeants bolcheviques, des gens qui voulaient remettre en cause le pouvoir des soviets. Au contraire, c'était des gens qui prétendaient rendre aux soviets ce qui leur appartenait de droit, c'est-à-dire l'effectivité du pouvoir, alors que les bolcheviques voulaient s'arroger le monopole du pouvoir. Donc c'est très différent. Maintenant, juste pour ajouter deux mots, il faut dire que sur le plan intellectuel et culturel, l'expérience n'est pas terminée pour autant. Je veux dire, il y a beaucoup de choses qui se passent dans le domaine de la poésie, dans le domaine du cinéma, dans d'autres domaines, qui sont très importantes, mais qui ne sont pas du tout à mettre au compte ou au crédit des bolcheviks. C'est seulement en 1928, par exemple, que la direction bolchevique va reprendre en main le cinéma. Donc entre 1917 et 1928, vous avez quand même pas mal d'années où il y a une expression créatrice, avec des choses extraordinaires qui se font, mais ça c'est l'effervescence culturelle qui accompagne octobre 17. Ça n'est pas quelque chose qui est à mettre au crédit de l'expérience politique. Parce que l'expérience politique, c'est terrible. C'est au contraire la dépossession, c'est la destruction des organes d'autogouvernement que sont les soviets. Donc il n'y a rien, effectivement, il n'y a absolument rien de positif là-dedans.
Alors, pour décrire la situation créée, décrire la société mise en place après octobre 17, vous utilisez un concept, le concept de communisme d'État. Alors, État, on voit bien. Par contre, communisme, ça pose plutôt question. Parce que finalement, dans cette société qui se met en place, quelles sont les alliances de classe qui dominent, qui possèdent l'État ? Et quel est le mode de production ? Quels sont les rapports de production qui dominent dans cette société ?
Oui, c'est une question qui est fondamentale. D'abord, ça renvoie à la signification même du terme de communisme, qui est une signification éminemment controversée, parce que contrairement à ce que certains disent, ça n'a pas eu toujours la même signification. Et il y a eu plusieurs types de communisme dans l'histoire, à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, jusqu'à ce qui s'est passé justement en Russie. Alors, communisme d'État, c'est pour souligner que dans cette signification, tout devait appartenir à l'État. Lorsque Lénine, en 1920, fait un discours devant l'Union des jeunesses communistes de Moscou, il dit « communiste », ça veut dire que c'est commun, et la société communiste, c'est une société où tout est commun. Tout est commun, ça veut dire que la terre, les moyens de production, l'activité de travail elle-même sont propriété commune. Mais quand il dit ça, ça veut dire propriété d'État. Donc si on parle de communisme d'État, ça n'est pas pour le plaisir de décerner à Lénine un brevet de communisme, ce n'est pas du tout ce qui est en question. Il s'agit de prendre au pied de la lettre ce que les dirigeants bolcheviques disent eux-mêmes. Par exemple, quelqu'un comme Victor Serge, qui est quelqu'un de formation anarchiste, qui vit là-bas, à Petrograd et à Moscou, dans les années 20, est amené à utiliser ce terme-là, cette expression. Il dit « c'est un communisme d'État ». Il dit « en fait, ce à quoi nous aspirons, nous, c'est un communisme sans État ». Il utilise parfois, il dit un communisme des associations qui soit un communisme sans État. Voilà. Mais il veut mettre l'accent, quand il fait cette distinction ou cette opposition même, il veut mettre l'accent sur la différence de signification. Quand on dit communisme des associations, on ne parle pas de la même chose que quand on parle de communisme d'État. Quand on dit communisme d'État, ça veut dire que c'est l'État qui définit ce qui est commun. Ça veut dire que c'est une capture du commun par l'État. La propriété étatique, dans sa version monstrueuse, qui a été expérimentée en Russie, en est une illustration parfaite. Mais en revanche, lorsque d'autres parlent du communisme des associations, ils entendent d'abord et avant tout par là que ce qui est commun doit procéder de la libre activité des individus. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Donc, vous voyez que c'est la signification même du terme de communisme qui est en jeu. Voilà. Et puis, concernant le mode de production et les classes, je pense que là, il faut être assez clair. Ça n'est pas du tout... Alors, bon, pendant un certain temps, il y a des gens qui ont parlé d'État ouvrier dégénéré, etc. Mais non, ça n'est pas du tout ça. C'est un capitalisme d'État qui est un capitalisme assez original. Parce qu'il faut quand même expliquer que c'est la première fois dans l'histoire, en tout cas dans l'histoire du capitalisme, c'est la première fois que vous avez l'appareil policier, l'appareil du NKVD, qui à partir de 1932-1934 va prendre en charge directement le recrutement et l'affectation de la main-d'œuvre. Donc ça, c'est quand même un mode de production assez particulier. Vous avez un appareil policier qui prend en charge directement l'affectation de la main-d'œuvre, qui décide, c'est presque comme si vous aviez une sorte d'accumulation primitive au début du capitalisme, mais là, ça serait réalisé non pas par des propriétaires privés, mais par l'appareil d'État répressif. Dans ce qu'il y a de plus répressif. Parce que 32-34, c'est l'assassinat de Kirov, un dirigeant important de l'appareil d'État bolchevique. Et à partir de ce moment-là, la répression se déchaîne et les bolcheviques vont prendre prétexte de cela, ou les bolcheviques staliniens en l'occurrence, des 34 et même un peu avant, ils vont prendre prétexte de cela pour dire justement il faut mettre au pas toute cette main-d'œuvre-là et l'organiser militairement. Donc c'est l'organisation militaire de la main-d'œuvre industrielle par un appareil de répression. C'est quand même sans précédent. C'est une figure donc, qui impose de parler d'un capitalisme tout à fait spécifique. Mais c'est un capitalisme, parce que ce qui vaut, les valeurs qui sont consacrées dans les discours et dans les pratiques, c'est le productivisme. C'est le taylorisme. Lénine, dès avant Staline, a dit qu'il fallait que la Russie, la jeune Russie, se mette à l'école du taylorisme. Donc ce sont des significations sociales qui sont complètement capitalistes. Ça n'a rien à voir, justement, la révolution de février, c'était pas ça, parce que c'était des significations sociales imaginaires, comme dirait Castoriadis, qui étaient aux antipodes de cette organisation rationnelle du travail. Bon. Alors que là, au contraire, ce sont des principes capitalistes d'organisation du travail qui prévalent, qui sont même scientifiquement et, comment dirais-je, administrativement organisés et mis en place par l'appareil d'État.
Alors vous avez évoqué la notion de stalinien ou de stalinisme. Toute une tradition fait une distinction entre le léninisme et le stalinisme. Alors qu'en pensez-vous, et est-ce que pour vous c'est léninisme et stalinisme, est-ce que c'est au fond la même chose?
Alors c'est assez compliqué parce que en définitive, il y a une façon à mon avis assez erronée de s'exprimer qui consiste à situer sur le terrain des personnes et à dire que par exemple Staline était le continuateur pur et simple de Lénine, ce qui est faux. Dit comme ça, c'est faux. Mais si on pose la question d'une façon, comment dirais-je, historique, c'est-à-dire en mettant en regard ce qui s'est passé en 1917 avec ce qui s'est passé en 1930, en 27, en 30, en 34, en 38, etc., on s'aperçoit en effet qu'il y a des germes. J'aime beaucoup cette métaphore qui est utilisée assez souvent. Alors, c'est une métaphore qui est utilisée par Kassoriadis dans un entretien qui porte sur l'idée de révolution en 1989. Et c'est une métaphore qui, bien avant lui, a été utilisée par Victor Serge. Victor Serge écrit un texte en 1947, qui est un texte sur le bilan, il met 30 ans de révolution, 30 ans plutôt après la révolution, pas 30 ans de révolution, et il indique à ce moment-là qu'il y a des germes qui sont des germes de mort. Des germes de mort qui existent dans la société russe du fait de l'autoritarisme, de la conception bolchevique du pouvoir et du parti. Et il dit les bolcheviques ne font confiance qu'à eux-mêmes en tant que parti. Et donc ils craignent la compétition, y compris la compétition électorale avec les autres partis, et c'est la raison pour laquelle, dès 1920, ils sont amenés à fermer absolument tout, c'est-à-dire à tout verrouiller, à interdire le pluralisme politique. Donc de ce point de vue-là, il y a des germes qui sont déjà dans le léninisme. Il y a des germes qui sont déjà dans les pratiques qui sont celles de Lénine. Il y a des germes qui... Les germes, ça peut être écrasé, ça peut au contraire être développé. Et de ce point de vue-là, il faut dire que Staline a développé les germes de mort qui étaient déjà présents dans le léninisme.
Alors, après Lénine et Staline, ce que je vous propose, Pierre, c'est de faire une petite translation en arrière dans le temps et d'évoquer Marx et Lénine. Alors, en France, il y a de nombreuses organisations qui se revendiquent du marxisme-léninisme. Votre livre pointe des différences, voire des désaccords. Dictature du prolétariat, pouvoir central contre constitution communale, dépérissement de l'État, rôle du parti. Alors, selon vous, est-ce que Marx, d'une certaine manière, a été dévoyé par Lénine?
Alors, il a été instrumentalisé de façon très sélective par Lénine, qui pensait d'abord et avant tout toujours aux besoins pratiques qui étaient ceux de son parti. Donc Lénine a toujours mis au-dessus de tout les intérêts pratiques de son propre parti, donc le parti bolchevique. Et donc la lecture qu'il est amené à faire de Marx est complètement subordonnée à ses impératifs pratiques. Donc il ne lit pas Marx pour chercher dans Marx ce que Marx a vraiment voulu dire. Il lit dans Marx ce qu'il arrange dans une situation donnée parce qu'il en a besoin pour convaincre justement les membres de son parti de la nécessité de changer ou de changer de ligne, de réorienter l'activité qui est celle du parti bolchevique. Et il le fait à plusieurs reprises, et il y a notamment un texte un peu effarant, qui n'a strictement rien à voir avec ce que Marx a pu écrire, même sur la dictature du prolétariat, qui est un texte de Lénine qui s'appelle « Contribution à l'histoire de la notion de dictature ». Et c'est un texte dans lequel Lénine n'hésite pas à dire que la dictature, au sens où il l'entend, c'est un pouvoir sans limite. Un pouvoir absolu, sans limite, qui procède uniquement de l'exercice et de l'usage de la force. Et c'est ainsi qu'il est amené à justifier justement la dictature telle qu'il l'entend. Or, si on se retourne vers Marx, on s'aperçoit que même en 1850-52, la notion de dictature du prolétariat ne signifie jamais ça. Chez Marx, ça signifie l'usage de la répression contre les ennemis de la révolution victorieuse. Ça ne signifie en aucun cas qu'on se passe de loi, qu'on se passe de limites, ça signifie qu'on est amené à encourager l'auto-activité des masses. C'est tout au moins ainsi qu'il le comprend à partir de 71. C'est-à-dire qu'il faut quand même souligner que pour Marx, 1871, c'est la Commune de Paris. Il en tire des enseignements qui sont complètement contradictoires avec ce qu'il pensait lui-même en 1850. 1850, c'est quelqu'un de très jacobin, la République une et indivisible, il pense en termes de dictature du comité de salut public. Et en 1871, alors c'est peut-être un revirement, mais pour moi c'est un revirement qui est plutôt positif. Le revirement de 1871, c'est qu'il se dit, ben, la Commune de Paris nous a montré qu'on ne peut pas se contenter justement de reprendre telle quelle la machine de l'État, il faut la briser. Et c'est la raison pour laquelle il faut une auto-administration, il faut des fonctionnaires élus et révocables, il faut des mandats impératifs, etc. Donc c'est totalement à l'opposé. Et de ce point de vue-là, on ne peut pas mettre sur le même plan Marx et Lénine. Encore une fois, je suis en désaccord avec l'usage même de la notion de dictature du prolétariat, mais entre cette notion et d'autre part la notion léniniste de dictature, il y a une différence qui est assez fondamentale. Donc en ce sens-là, oui, on peut dire qu'il a été dévoyé, que l'inspiration qui était celle de Marx a été dévoyée par Lénine pour des besoins qui sont encore une fois des besoins strictement instrumentaux.
Alors pour reprendre l'expression que vous utilisez dans le titre de votre ouvrage, l'ombre d'octobre, vous indiquez que cette ombre d'octobre a réussi à masquer deux révolutions, la révolution mexicaine, donc avant 17, et puis surtout la révolution espagnole en 1936. Alors en quoi cette révolution espagnole, on va prendre cet exemple-là, a été une révolution sociale pour vous exemplaire?
Oui, c'est une révolution qui est extrêmement importante parce qu'on a eu tendance, sous l'effet justement des communistes staliniens en particulier, à réduire ce qui s'est passé en Espagne de 1936 à 1939 à quelque chose qui relèverait finalement d'une sorte de guerre classique entre d'un côté le camp des franquistes et puis de l'autre côté le camp républicain. Et c'est le mérite de Orwell que d'avoir montré qu'en fait il y avait une guerre politique à l'intérieur du camp républicain. Et que cette guerre politique opposait d'un côté le communisme autoritaire, qui était celui des staliniens, et puis de l'autre côté un communisme de type associationniste et libertaire, qui était celui de la CNT, de la FAI, la Fédération donc anarchiste ibérique, qui avait été impulsée, c'est l'inspiration de Bakounine qui prévalait à ce moment-là, et puis d'autre part du POUM, y compris, qui était un parti marxiste d'inspiration libertaire. Et ce conflit-là devient extrêmement violent, parce qu'il faut imaginer, tout le monde fait l'impasse là-dessus, mais ce n'est pas la guerre d'Espagne uniquement, c'est la révolution espagnole. Parce qu'en juillet 1936, à partir du moment où il y a le coup d'État de Franco, vous avez un véritable changement qui affecte les rapports sociaux quotidiens de centaines de milliers d'Espagnols. C'est des gens qui sont amenés à cirer les chaussures, qui, comme dit Orwell, arborent sur... sur leurs panneaux nationalisés ou collectivisés. C'est un changement complet de mentalité, avec bien sûr, comme ça se passe un peu partout, des excès, bien sûr, ça va de soi. Mais ce qui est important, c'est le fait que l'État est en miettes. L'appareil d'État est complètement à terre. Le pouvoir est exercé en fait par des comités municipaux, des comités de quartier, des comités d'usine. C'est très conseilliste, c'est très libertaire, c'est une révolution qui est vraiment libertaire. Ça présente un trait commun justement avec le Mexique de 1910. C'est que ce sont deux révolutions d'inspiration libertaire. L'une avant 17, l'autre après 17. Mais c'est justement ça qu'on a voulu étouffer. Donc l'idée que finalement c'est toujours des institutions d'autogouvernement. C'est pour ça qu'il était important de mettre les choses au point concernant la signification du mot soviet. Les soviets sont des institutions du gouvernement, d'autogouvernement, les comités d'usines, de quartiers, de villages qui voient le jour, qui sont amenés à prendre en charge la gestion des entreprises, ou des quartiers, et des localités, sont des institutions d'autogouvernement. Donc ce qu'il y a de très important dans cette révolution, c'est la mise en place d'institutions d'autogouvernement. C'est par là que finalement il y a un lien assez profond entre février 1917 et juillet 1936. Pas entre octobre 1917 et juillet 1936. Et il y a un ouvrage magnifique d'un historien anglais qui a consacré 40 ans de sa vie à écrire là-dessus, qui s'appelle Burnett Bolotin. Et le livre, c'est La guerre d'Espagne. C'est un livre remarquable de près de 1000 pages, mais ça se lit vraiment comme un roman. Et c'est un livre magnifique qui reconstitue et remet finalement en scène et rend présent d'une façon très vivante ce qui s'est passé, les principaux épisodes et notamment ce qui a pu se passer à Barcelone en mai 37, hein, où les gens des gardes civils venus de Valence sur ordre du gouvernement républicain ont purement et simplement réprimé les milices du POUM et les milices anarchistes. Donc ça, c'est un épisode qui est fondamental et ça permet de comprendre pourquoi cette révolution, c'est une révolution qui est restée assez méconnue finalement, assez ignorée. Hein. Le premier ouvrage de Burnett Bolotin s'appelle « Le grand camouflage ». le grand camouflage. Surtout, 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 tenir les gens dans l'ignorance, tenir l'opinion publique et donc des centaines de milliers et des millions de personnes dans l'ignorance de ce qui s'est passé en Espagne. Ça pourrait leur donner de mauvaises idées et ça pourrait justement éventuellement susciter une imitation d'exemple. Voilà. Et c'est ce dont on ne voulait pas, ce dont on ne voulait absolument pas. Ce dont l'Union soviétique de Staline et le Parti communiste espagnol ne voulaient pas, et les autres partis communistes, français aussi, comme italiens, comme d'autres. Bon, voilà. Donc ça, c'est très important à comprendre. La révolution espagnole est une révolution authentique parce qu'elle promeut un imaginaire social égalitariste et qu'elle se dote d'institutions d'autogouvernement.
À la fin de votre livre, vous insistez sur le fait qu'il y a plusieurs communismes, donc le communisme d'État d'octobre dont vous nous avez parlé, qui en est un, mais historiquement, évidemment, il y a eu d'autres conceptions du communisme. Alors, en quoi est-ce qu'il est décisif de s'orienter dans ce labyrinthe, et un nouveau communisme que vous appelez par le terme du communisme des communs, est-ce qu'il est possible, est-ce qu'il est souhaitable, en quoi consiste-t-il?
C'est vrai que c'est un labyrinthe, hein, parce que quand on est amené à s'interroger sur la signification du terme de communisme, on pense que tout est simple. Et en fait, comme tout à l'heure j'ai pu en parler, c'est pas du tout simple, parce que derrière ce mot de commun, il y a des choses très différentes qui sont signifiées. Et donc quand on parle de communisme des communs, on met l'accent peut-être davantage que sur communisme, sur le pluriel, c'est-à-dire sur les communs. Parce que les communs, ça relève d'une expérience qui est une expérience multiforme, qui est non centrée, qui ne relève absolument pas de la souveraineté de l'État, qui est même contradictoire avec la souveraineté de l'État. Et donc pour nous, c'est un point qui est absolument fondamental. Néanmoins, si nous parlons de communisme, c'est parce que le terme n'a pas exactement, il ne peut pas être réduit à la signification qui est celle du mot russe soviet. Soviet, c'est un mot russe qui a été ensuite exporté avec succès, mais qui est devenu l'emblème de quelque chose d'assez monstrueux, ce qui se passait dans l'Union dite soviétique, et ça justifie qu'on ne parle plus de soviet, parce qu'un mot ne peut pas impunément comme ça avoir été utilisé pendant des dizaines d'années pour signifier exactement le contraire de ce qui signifiait originellement, sans que ça ait des conséquences sur le plan du langage. Bon. Mais là, c'est un peu différent, parce que le communisme, le terme a existé à la fin du 18e, le terme a existé au début du 19e, il n'avait absolument pas la signification de communisme d'État, pas du tout. C'était des gens qui pensaient que le communisme, c'était l'État de communauté, c'est-à-dire une société très unie, y compris moralement et spirituellement. Les premiers communistes n'étaient pas du tout des matérialistes. Et puis ensuite, vous avez eu le communisme qui est celui de l'association des producteurs, celui de Marx et d'un certain nombre d'autres penseurs. Vous avez eu le communisme d'État et de parti, qui est celui des bolcheviks, celui de Lénine, celui de Staline. Et puis vous avez quelque chose de tout à fait différent qui s'expérimente aujourd'hui, voilà, qui est de l'ordre du commun. C'est pour ça que dans le communisme, il y a commun, après tout. Donc, il faut quand même le rappeler. Et c'est parce que c'est de l'ordre du commun que le terme de communisme peut être risqué de nouveau. Il est à prendre avec beaucoup de prudence, parce qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le fait qu'il a malheureusement signifié quelque chose d'assez monstrueux pendant des décennies. Néanmoins, si on valorise la signification du commun, à ce moment-là, on valorise ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a de co-obligation que celle qui procède d'une participation à une même activité. Voilà. Le commun, le véritable commun, ne peut procéder que de l'exercice de la démocratie la plus radicale. Et ça, c'est effectivement ce qu'on trouve dans la racine. Le terme de commun, d'après son étymologie latine, signifie d'abord et avant ça une sorte de co-obligation fondée sur la coparticipation à une même activité. Ça, c'est positif.
Alors Pierre, après le commun que vous venez de décrire, je vous propose d'aborder la notion de révolution en partant du léninisme. Alors le léninisme, conquête insurrectionnelle du pouvoir par un parti état-major, transformation de la société par le haut, hein, vous êtes suffisamment revenu dessus. Donc, aujourd'hui, on peut estimer que c'est périmé, même si sans doute de quelques organisations qui y croient encore. Alors, mais le problème politique de fond, hein, 100 ans après 17, hein, développement du capitalisme, il reste le même, pour dire les choses rapidement, une classe possédante oppose au peuple un traitement insupportable. Crise après crise, le capitalisme perdure. Et aujourd'hui, selon vous, quelles sont les nouvelles façons de faire révolution ?
L'expression de faire révolution est une expression qui est assez forte, parce qu'elle souligne qu'il y a là une dimension d'activité qui est irréductible, et que par conséquent, on ne fait pas la révolution à la place d'autres personnes, mais faire révolution, c'est une œuvre collective. C'est l'œuvre de la plus grande partie de la société. Les véritables révolutions sont l'œuvre de la plus grande partie, ou en tout cas d'une partie très influente, très importante de la société. Ce ne sont donc pas des coups d'État réalisés par de petites minorités conscientes qui entraîneraient, malgré elles, une masse inconsciente plongée dans l'ignorance et les préjugés. C'est un peu comme ça qu'on avait tendance au XIXe siècle. Avant donc le léninisme, on avait souvent tendance à se représenter les choses de cette façon. En France, il faut quand même le dire, 1848, c'est encore un moment où on conçoit la Révolution comme étant l'œuvre de petites minorités conscientes. Et puis ensuite, il y a un certain nombre de défaites qui font qu'on s'interroge de plus en plus sur la viabilité de ce chemin, et il y a beaucoup de gens qui remettent ça en cause, à juste titre à mon sens, et on doit donner un sens à la notion de Révolution qui est très différent. La notion de révolution, il faut la comprendre comme étant, alors on aime beaucoup avec Christian Laval cette expression de Kassoriadis, une auto-institution de la société. Chaque mot est important. Auto-institution de la société. C'est la société, c'est l'œuvre de la société. C'est pas l'œuvre d'une minorité d'avant-garde. Auto-institution, parce que institution, ça veut dire qu'on est amené à faire émerger de nouvelles significations imaginaires. Par exemple, les communs, aujourd'hui, relèvent de cette nouvelle signification imaginaire. Auto-institution, parce que c'est l'acte de la société qui se prend elle-même pour objet.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur microrebelle.fr et sur PFM 99.9, radio associative, libre et sans pub. Nous terminons par de la musique libre et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.
Ce micro-rebelle hebdo se termine sur micro-rebelle.fr.
N'hésitez pas à nous contacter en nous envoyant un courriel à contact@micro-rebelle.fr.
Salut à toutes et à tous et à la semaine prochaine.